Radio Okapi.
Les réactions continuent de tomber en ce qui concerne les dernières sanctions des USA à l'armée rwandaise et certains de ses hauts commandants. La dernière en date est celle de l'organisation internationale Human Rights Watch. Vous allez la découvrir sous peu. Nous parlerons ensuite de cet éboulement dans le territoire de Mwenga sur les sites miniers de Kalingi qui a causé la mort de deux creuseurs artisanaux et un a été retrouvé vivant dans un puits d'or situé dans la chefferie de Wamuzimu. Le nombre d'accidents de la route continue d'augmenter au Kasaï central. La CNP rapporte avoir enregistré 63 accidents entre le 1er janvier et le 4 mars 2026. Ces incidents ont déjà causé la mort de 39 personnes. Pour en parler, nous recevons Andrick Ndalandi Mwe, son directeur provincial. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition du journal de la mi-journée. Les sanctions prises le 2 mars par le gouvernement des États-Unis contre l'armée rwandaise et quatre de ses hauts commandants accusés de soutenir le groupe armé M23 responsable d'exactions en République démocratique du Congo continue de susciter des réactions. La dernière en date est celle de l'organisation internationale Human Rights Watch. Dans un communiqué publié ce mercredi, Nicole Widershen, directrice adjointe du bureau de Washington, estime que l'annonce du Trésor américain montre que le gouvernement des États-Unis est prêt à utiliser les outils à sa disposition pour faire respecter les accords de Washington. Elle ajoute, les États-Unis et les autres gouvernements devraient aller au-delà des sanctions et exiger des comptes pour les crimes de guerre et autres violations graves du droit international dans l'est du Congo. Plus de détails avec Alain Irungmouchinj.
Dans ce communiqué, Human Rights Watch propose que d'autres gouvernements concernés, notamment au sein de l'Union européenne, dans la région et au Royaume-Uni, devraient suivre l'exemple des États-Unis en imposant des sanctions ciblées à d'autres commandants du M23, ainsi qu'à des personnalités et responsables militaires rwandais ou à des entités facilitant les exactions du M23. Les États-Unis et les acteurs régionaux devraient veiller à ce que des mécanismes de contrôle soient mis en œuvre pour garantir le respect des dispositions de l'accord de paix. Les mesures devraient également s'étendre à tout responsable congolais ou groupe allié dont les actions font courir un risque aux civils. Une pression multilatérale soutenue sur toutes les parties au conflit est nécessaire pour garantir la protection adéquate des civils et leur accès à l'aide humanitaire, a déclaré Human Rights Watch. La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples devrait également intensifier l'examen des violations commises dans l'est du Congo, notamment par le biais de ces mécanismes spéciaux. Les mécanismes régionaux de responsabilisation devraient compléter les efforts internationaux.
Dans le même registre, les ressortissants des provinces du Maniema, du Nord Kivu et du Sud Kivu annoncent la tenue du conclave du Grand Kivu. Prévue du 9 au 11 mars, cette rencontre réunira des acteurs sociopolitiques afin de définir des stratégies susceptibles de favoriser une paix durable dans cette partie de la RDC encore marquée par l'insécurité. L'annonce a été faite ce mercredi à Kinshasa lors d'un échange avec les médias. Les explications de Blaise Ndongala Mayanda.
Placé sous le thème « Unité, paix et développement durable pour les Grands Kivu », ce conclave se veut un cadre stratégique d'échange, de concertation et de formulation de recommandations concrètes afin de renforcer la stabilité, la cohésion sociale et le développement socio-économique du Maniema, du Nord et du Sud Kivu. Durant 3 jours, les participants travailleront sur plusieurs thématiques, notamment la paix, la sécurité, la gouvernance, le développement économique ainsi que l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. L'un des initiateurs de cette démarche, l'abbé Jean Bosco Bahala, a indiqué qu'un accent particulier sera mis sur l'appropriation des accords de Washington qu'il considère comme un levier majeur dans la dynamique de stabilisation et de consolidation de la paix.
Les populations qui vivent dans cet espace espèrent que ces accords sont une solution pour les problèmes qu'ils vivent les problèmes de développement, de sécurité, du vivre ensemble.
Le président provisoire de ces conclaves, Léon Ouattangabo, estime que le moment est venu de mettre fin à la crise qui ronge la partie est du pays où des milliers d'habitants ont abandonné leur village à cause de la guerre. Il appelle ainsi les Congolais ayant pris les armes à se retirer et à demander pardon afin d'affaiblir l'agression rwandaise en cette période où la balance internationale penche en faveur de la RDC.
Il n'y aura jamais de justice sans réparation. Déclaration ce mercredi de la chargée de programme de l'organisation End for Help basée à Beni. C'était lors d'un atelier de plaidoyer en faveur des victimes de la guerre dans la région de Beni. Outre l'éducation à la cohabitation pacifique, la sensibilisation à la lutte contre la désinformation, cette ONG estime qu'il faudrait également mettre en place un mécanisme de suivi pour que les victimes soient remises dans leurs droits. Nicole Lufungi, chargée des programmes de l'organisation End for Help, explique au micro de Marc Marofimbo.
Nous pensons que pour contrer ces fléaux, il faut beaucoup plus investir du côté de la prévention. C'est ainsi que nous nous focalisons beaucoup plus sur la sensibilisation, sur la culture de la paix, la cohésion sociale, ainsi de suite. Parce que vous voyez, le terrorisme et l'extrémisme sont des fléaux qui profitent des climats d'instabilité au sein des communautés. Mais également, comment éduquer nos communautés à chaque fois identifier les messages de haine, les incitations à l'extrémisme à travers même les réseaux sociaux, mais également plaider en faveur de la réparation des victimes. Parce que vous savez, il n'y aura jamais de justice sans réparation. Et si vous avez eu à suivre, il y a des victimes qui sont venues témoigner. En tout cas, les récits sont tellement tragiques. Ils ont été abusés, ils ont connu vraiment des situations terrorisantes. Alors, s'il n'y a pas de réparation, on ne dira jamais qu'il y a eu justice en faveur des victimes de ces affres de la guerre qui sont commis ici chez nous par des groupes extrémistes.
Nord Kivu toujours, la lutte pour les droits des femmes reste marquée par le plaidoyer pour l'instauration d'une paix durable. C'est le constat d'Immaculée Biraeka, l'une des pionnières de cette lutte. Pour elle, les femmes du Nord Kivu agissent ainsi depuis plus de 30 ans car la guerre a commencé quelques semaines seulement après le début des premières actions pour les droits des femmes dans la zone. Récompensée mercredi à Goma pour son action en faveur des droits humains par le collectif des associations des féminines pour le développement CAFED, cette icône de la société civile salue le courage des femmes de l'Est de la RDC. Elle les encourage à ne pas baisser le bras malgré les conditions difficiles qu'elles traverse. On l'écoute au micro de Rosalie Zawadi.
Mes sentiments sont des sentiments de très grande satisfaction. D'une part, parce que nous recevons des reconnaissances, mais aussi parce que les femmes sont restées actives. Il y a des avancées, mais aussi il y a des reculs. Parce que les femmes commencent à étudier, les femmes commencent à entreprendre, les femmes commencent même à se parler. Le fait que les femmes parlent et se prennent en charge, c'est déjà des avancées. Mais vu les conditions dans lesquelles nous avons travaillé, vous connaissez, la guerre a plus de 30 ans. Nous avons commencé au début même de la guerre en 93, puisque la guerre a commencé le 21 mars 93. Nous aussi, on a commencé le 8 mars. Le temps que nous sommes en train de travailler sur les vœux de la femme, il y a des conditions qui nous ont fait reculer, que les femmes ne se découragent pas. Parce que j'ai rencontré des femmes par le monde qui militaient depuis 50 ans, mais les choses n'avaient pas changé complètement comme elles le désiraient, mais il y avait toujours un bon changement positif. Je suis très satisfaite de trouver que les femmes sont debout et les jeunes. Il n'y a pas que des femmes âgées qui commencent à se raconter de vieilles histoires.
Ce journal se poursuit dans la province de l'Ituri où une centaine de personnes déplacées du site de Mbale à une dizaine de kilomètres au nord de Bunia ont été sensibilisées mercredi à la lutte contre les violences sexuelles et basées sur les genres. Organisée par la police de la MONUSCO UNPOL en collaboration avec la section de conduite et discipline de la mission, cette activité avait pour objectif de donner à ces vulnérables des notions importantes sur ce fléau afin qu'ils puissent avoir le courage de dénoncer leurs bourreaux. C'était en prélude au mois de la femme, dédié à la promotion des droits des femmes. Marcel Kizabiamongo.
Des femmes et des hommes, ainsi que des enfants mineurs, ont rempli la salle des réunions du site des personnes déplacées de Mbala à la périphérie nord de Bunia. Tous concentrés ont suivi des exposés sur les violences sexuelles et basées sur le genre et sur les mineurs, un phénomène présent dans le milieu des déplacements. Selon la responsable de la police de la MONUSCO à Bunia, cette activité se justifie après avoir enregistré plusieurs cas de violences sexuelles dans ce site.
On attend d'eux qu'ils tiennent en compte vraiment de cette sensibilisation. l'éducation. Les violences sexuelles basées sur le genre, ça touche tout le monde.
Pour Emmanuel Dirojo, président du site de Mbala, cette sensibilisation a permis aux déplacés de connaître leurs droits, mais aussi elle leur permet désormais d'avoir le courage de dénoncer à temps les cas de violences sexuelles dont les personnes les plus affectées sont des enfants de moins de 18 ans dans ces sites. Nous allons continuer la sensibilisation dans les sites pour qu'en cas de violences sexuelles, qu'on alerte vite afin que les bourreaux soient déférés en justice. Notez que la même activité sera organisée la semaine prochaine dans les sites de Tiré. Cette fois, c'est au sud-ouest de la ville de Bounia. Bounia, Martial Kiza, Biamungu, Radio Okapi.
Je le disais en titre, dans le territoire de Mwenga, précisément à Kamituga, un éboulement qui s'est produit mercredi 4 mars sur les sites miniers de Kalingi, dans le village de Mazozo, a causé la mort de 2 creuseurs artisanaux et un a été retrouvé vivant dans un puits d'or situé au chef-lieu du groupement de Baligi, dans la chefferie de Wamuzimu. Le cadre de concertation de la société civile du bassin des Alia, dans le territoire de Mwenga, dénonce les mauvaises conditions de travail qui prévalent dans l'ensemble des sites miniers et de la région. Son secrétaire exécutif, Samuel Basoubi, appelle les services étatiques chargés de l'encadrement des creuseurs artisanaux à ne pas se limiter à la perception de taxes. On l'écoute dans cet extrait choisi par Jean Kassami.
Les services SAEMAP doivent vraiment jouer son rôle d'encadrement et d'accompagnement des activités de l'exploitation minière dans la zone. On voit que le service ne se contente que de recouvrir le taxe aux assujettis. Rien que ça. Mais d'autres activités, encadrement, conseil, éducation civique, ils ne font rien. On a encore travaillé dans des endroits interdits par la loi. Mais comme on paie seulement la taxe, on laisse les gens périr comme ça. Comme société civile, ça choque. Ça donne un pincement au cœur. Nous demandons à ce qu'on puisse changer cette mentalité et chercher une nouvelle approche pour sauver des vies. Car chaque jour, nous enregistrons des morts à Lougouchoua, à Bigombe, à Kamituga, ça est là dans les territoires de Mwenga et dans la ville de Kamituga. C'est pourquoi on doit changer l'approche et chercher d'autres mécanismes pour sauver des vies.
L'ambassadeur de France en RDC se réjouit de la mise en œuvre du projet des savanes et forêts dégradées dans la province de la Tchopo. Rémi Maréchaux l'a déclaré mercredi au terme d'une visite éclair effectuée au site du point kilométrique 29 sur la route de Bouta. Dans sa déclaration, le diplomate français s'est fait accompagner du coordonnateur national de PFSD, Willy Makiadimbonzu, du ministre provincial en charge de l'environnement, agriculture et développement rural, Bijou Koitaka. Objectif, voir comment ce projet est mis en œuvre et dans quelle mesure il bénéficie à la population. Les explications avec Jacques Moukonkole.
La France et la RDC partagent un intérêt commun, celui de lutter contre la déforestation, déclare l'ambassadeur français. Et pour y parvenir, il faut maintenir un couvert forestier très important, ajoute-t-il. Étant donné que l'agriculture est la cause principale de la déforestation au pays, Rémi Maréchaux affirme qu'il faut offrir aux agriculteurs une alternative au déboisement pour augmenter la production.
Concrètement, en visitant une parcelle nouvellement plantée, comment l'agriculteur qui avait bénéficié de ce programme, de cet accompagnement, a vu son revenu augmenté, comment il a pu construire une maison en dur, envoyer ses enfants à l'école, etc. C'est très important que les projets qu'on mène ici soient des projets qui bénéficient directement aux populations congolaises, parce que c'est la garantie de leur succès.
L'Agence française de développement finance ce projet dans la Tchopo. 4 cultures sont concernées, à savoir le cacao, le palmier à huile, l'arbre à chenille, ainsi que l'acacia. Tout marche bien, déclare le coordonnateur national de PSD, Willy Makiadi.
On a donné une assignation de 4000 hectares pour la province de la Tchopo. Pour l'instant, on est à 3200 hectares déjà réalisés et on a 600 hectares qui sont dans les pépinières qui seront transplantés dans moins d'un mois.
Rappelons que ce programme est mis en œuvre par le ministère de l'Agriculture et exécuté par l'Agence française de développement. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Dans la province du Maniema, l'atelier de sensibilisation des magistrats et du personnel judiciaire sur l'application de la loi relative à la conservation de la nature et à la lutte contre la criminalité faunique s'est clôturé hier mercredi. Organisé par l'ICCN en collaboration avec l'organisation Congo Conserve, cet atelier visait notamment à renforcer les capacités des participants dans le suivi des infractions liées à la criminalité faunique et à clarifier la collaboration entre les tribunaux et l'ICCN dans la chaîne d'application de la loi. Reportage de Florence Kizalunga.
À l'issue de ces deux jours de travaux, le directeur chef de site du parc national de la Lomami, Radar Nishuli, s'est réjoui du renforcement des capacités des autorités judiciaires sur les instruments juridiques et encadra la lutte contre la criminalité faunique.
Nous avons compris que la loi sur la conservation de la nature était une loi qui n'était pas beaucoup connue par nos organes de loi. C'est comme ça que nous avons pensé que multiplier cette loi, leur disponibiliser ça, ça permet quand ils auront des cas de flagrant ou des violations de la loi sur la conservation de la nature, ils peuvent bien se comporter et savoir quelles dispositions prendre vis-à-vis des infractions constatées.
Satisfaits, les participants ont pris l'engagement de contribuer à la conservation de la nature par la répression du braconnage.
La formation elle a été utile pour nous parce que ça nous a permis d'avoir un aperçu panoramique sur les différentes législations en matière de la conservation de la nature, mais aussi les infractions qui sont retenues par cette loi-là et les sanctions qui sont prévues. En fait, c'est un élément déjà de plus parce que même dans la défense, lorsqu'il y a des criminalités phoniques, je peux déjà intervenir parce qu'on a suffisamment outillé sur cette matière-là.
Le participant recommande que ce type d'activité soit organisé régulièrement afin d'assurer un meilleur suivi. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Au Soudan, quelques heures après la lettre de démission de Thomas Boniayi, datée de ce mercredi 3 mars 2026, les hauts responsables du parti d'opposition, les démocrates, se sont réunis en comité permanent au siège du parti à Cotonou. L'ancien chef d'État a fait parvenir au secrétariat administratif des démocrates un courrier annonçant son retrait à la présidence du parti, invoquant des raisons de santé. Le parti n'a pas entériné ce départ pour l'instant et entend d'abord aller à sa rencontre.
L'invité.
Le nombre d'accidents de la route continue d'augmenter au Kasaï central. La Commission nationale de prévention routière CNPR rapporte avoir enregistré 63 accidents entre le 1er janvier et le 4 mars 2026. Ces incidents ont déjà causé la mort de 39 personnes. Andrick Ndala-Ndimwe, directeur provincial de la CNPR, est l'invité de notre journal. Il s'entretient avec André Katende Ngalamouloumé.
Monsieur Andrick Ndala-Ndimwe, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Parlez-nous des cas d'accidents depuis le début de l'année 2026 en province.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, le 4 de ce mois de mars, nous comptons 63 accidents, 39 personnes mortes. Il y a eu 32 personnes grièvement blessées et il y a eu aussi des dégâts matériels graves. Ces 4 motos qu'on ne peut pas récupérer et aussi 59 cas légers des engins qu'on peut récupérer. Hier, nous avons reçu 7 cas. Vous allez comprendre qu'il y a un problème terrible sur notre réseau routier provincial. Permettez-moi de lancer un appel.
Avant de passer à l'appel, qu'est-ce que vous avez identifié comme problème majeur de tous ces cas d'accident?
Les causes des accidents de circulation routière, il y en a plusieurs. La première des causes, c'est l'absence de connaissance des nouveaux codes de la route au volant. Nos conducteurs allument seulement les véhicules, engagent les vitesses et réduisent les vitesses. Pour eux, sont devenus des chauffeurs. Non, venez à la CNPR pour qu'on puisse vous recycler et remonter votre niveau de conduite. Surtout les motards, j'insiste sur eux parce que ce sont eux qui amènent beaucoup de dégâts sur la chaussée. Nous ajoutons les cas des drogues au volant. Donc ce n'est pas seulement l'ivresse de l'alcool, mais il y a aussi l'ivresse des chanvres. Il y en a plusieurs que je peux citer ici. Nos routes sont niouettes. Nos routes ne parlent pas. La population manque comment s'orienter.
Lorsque vous parlez d'une route muette, à quoi est-ce que vous faites allusion?
Je suis en train de faire allusion des signaux. C'est-à-dire, il y a les panneaux de signalisation, il y a marquage au sol, il y a les feux lumineux. Donc, si un conducteur ne maîtrise pas ça, et si la route est construite sans ces signaux-là, en tout cas, attendez-vous à des cas pareils, des morts, des blessés, des dégâts, ainsi de suite.
Qu'est-ce qui doit être fait pour que les cas des accidents soient vraiment réduits?
Nous avons toujours demandé aux conducteurs, venez à la Sainte-Père pour qu'on puisse vous recycler, avoir un niveau qu'il faut. Le NIC service qui n'a qu'à aider les conducteurs, c'est la CNPR. Le recyclage, c'est un pouvoir que l'État congolais a donné à la Sainte-Père afin de recycler tout conducteur tous les 3 ans. Et après cela, il y a ce que nous disons la politique de conduite. Et plus loin, nous avons ce qu'on appelle les nouveaux codes de la route écoliers. Nous allons parler le même langage avec le gouvernement de façon qu'on puisse commencer avec cette matière ici dans des établissements scolaires à partir de l'école primaire. Pour que les enfants sachent que voilà, demain ou le lendemain, quand il sera conducteur, il saura que voilà ce qu'on nous avait appris. Il a cette bonne matière-là dans sa tête pour ne pas marcher de gauche à droite et respecter les normes de la route en bonne et due forme.
Vous venez de dire que vous avez le pouvoir de recycler les conducteurs tous les 3 ans. Alors, qu'est-ce qui vous empêche de faire ce travail?
Dans chaque domaine, il y a toujours la politique. Et cette politique-là est accompagnée avec des autorités. Nous sommes en train de parler avec eux. Parce que qui que ce soit, il ne peut pas aller au-delà de la loi. Nous, on est là, nous parlons un bon langage avec le gouvernement. Nous ne pouvons pas le faire sans qu'il y ait la bénédiction du gouvernement provincial. Quand bien même c'est parmi nos missions régaliennes, nos attributions régaliennes. Mais nous ne pouvons pas le faire aujourd'hui. On se réveille le matin, on va sur la voie publique, on commande. Non, il y a des normes qu'il faut respecter. Parmi ces normes-là, il faut qu'il y ait aussi l'autorisation de l'autorité de tutelle ou soit exécutif. Nous sommes dans les pourparlers.
Vous aviez un message à adresser à la population au moment que je vous ai interrompu. Est-ce que vous pouvez revenir à ces messages?
Je disais ceci, que les conducteurs doivent savoir qu'ils sont des sauveurs. Qu'ils viennent à la Sainte-Père, nous avons la matière. Les usagers de la route, tendance confondue, veuillez respecter les normes de la route. Ainsi que les constructeurs de routes, nous vous demandons de venir pour qu'on ajoute ce que nous pouvons ajouter comme des ingrédients dans tout ce que vous faites.
Monsieur André Kendala Dimou, nous vous remercions d'avoir bien voulu répondre à nos questions.
C'est à nous de vous remercier, monsieur le journaliste.
C'était donc notre invité André Kendala Dimou, qui s'entretenait avec André Katende Ngalamouroumé. Et c'est ce qui met fin à ce journal de la mi-journée, coordonné par Élisée Chikota Chivueta et supervisé par Alain Irungumushinj. La mise en onde était assurée par Dieudonné Nyangasa Wanyangasa. Ce journal est à retrouver sur notre site internet et sur toutes les plateformes digitales de la Radio Okapi.